réplique, retour ou sortie du religieux avec Marcel Gauchet et Pierre Manant. Ce n'est point le futur que j'envisage, écrit Claudel au début de son art poétique. C'est le présent même qu'un Dieu nous presse de déchiffrer. D'un moment à un autre, un homme redresse la tête, renifle, écoute, considère, reconnaît sa position. Il pense, il soupire, et tirant sa montre de sa poche logée contre sa côte, regarde l'heure. Où suis-je et quelle heure est-il ? Telle est, de nous au monde, la question inépuisable. Cette question, dans la dernière décennie du siècle dernier, ne semblait pas poser de difficultés particulières. Un même processus fondamental était à l'œuvre, quelque chose comme une histoire universelle de l'humanité dans le sens de la démocratie libérale. Cette certitude a été fortement ébranlée par l'expansion de l'islamisme radical et le choc des cultures à l'intérieur même des sociétés occidentales. La donne a changé, la perplexité règne. Je compte aujourd'hui sur Marcel Gauchet et Pierre Manant pour nous en sortir. Et je leur poserai une question préjudicielle à celle de Claudel. Avec la confrontation entre le fanatisme religieux des uns et le sécularisme des autres, est-il encore légitime de parler d'une histoire universelle ? Habitons-nous tous le même présent ? Est-ce, autrement dit, la même heure qui sonne pour tout le monde ? Marcel Gauchet.
Nous habitons tous le même présent. C'est même la nouveauté profonde de notre situation, ce qu'on appelle mondialisation. Nous sommes jetés dans la même histoire, mais à partir d'histoires très différentes. Et là est le nerf de nos perplexités face à cette situation. Ou bien nous privilégions l'homogénéité de ce temps universel devenu une réalité pour de bon, ou bien, à l'inverse, nous mettons l'accent sur une hétérogénéité des temporalités historiques dont procèdent les différentes cultures, et en ce cas, nous ne comprenons plus l'unité qu'il va falloir assumer de ces histoires si différentes, obligées de converger par ce mouvement irrésistible qui s'appelle mondialisation.
Oui, mais Horkheimer et Adorno parlaient justement d'une non-contemporanéité des contemporains. C'est un peu ce qui m'a dicté ma question. Ne peut-on pas appliquer cette expression ou ce concept à une situation comme la nôtre, où tous les hommes, visiblement, n'ont pas la même histoire et donc n'ont pas le même agenda, ce qui expliquerait la collision qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, Marcel Gauchet.
Cette non-contemporanéité est plus que jamais d'actualité. C'est le concept même qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire les réactions désordonnées que provoque cette situation de confrontation. Car nous ne sommes pas plus nous contemporains occidentaux, disons, ou européens, quand nous restons enfermés dans notre propre temporalité, sans mesurer l'hétérogénéité nouvelle du monde à laquelle nous sommes confrontés, que d'autre part, les non-occidentaux, puisque derrière mondialisation, il faut entendre occidentalisation du monde, ne sont les contemporains de leur histoire quand ils pensent pouvoir prolonger leur trajectoire dans le sens de ce qu'elle a toujours été, au lieu de cet effort d'excentration, de décentrement qui est demandé à tous, de façon différente dans les deux cas. Les occidentaux sont aveugles sur le monde qu'ils ont créé, et beaucoup de ceux qui sont amenés à entrer dans cette histoire dominée par les occidentaux, de fait, sont aveugles à ce que cela exige d'eux par rapport à leur propre tradition et à leur identité historique reçue. C'est la situation chaotique dans laquelle nous sommes plongés.
Pierre Manant.
Oui, nous sommes évidemment tous vivant la même seconde ou la même minute. le même présent sur la base d'expériences du temps très différentes et sur la base de rapports à nos histoires respectives très différentes. Nous l'avons toujours su, simplement, dans la période récente, les histoires différentes étaient rassemblées par la notion de progrès. Alors il y avait évidemment ce qui était à la pointe de l'histoire, c'est-à-dire nous-mêmes, oui. L'Europe ou l'Occident, et puis les autres civilisations s'échelonnaient respectueusement derrière. Aujourd'hui, je crois ce qui détermine de la façon la plus troublante notre moment présent, c'est quand même le craquement, l'affaiblissement de cette notion de progrès. Et la possibilité d'ordonner non seulement les civilisations, mais même l'histoire européenne ou l'histoire occidentale sur la base, exclusive ou principale de cette notion est aujourd'hui profondément remise en cause. Et je crois que c'est à cette dégradation, en quelque sorte, du statut du progrès dans notre esprit que nous devons faire face.
Mais alors, justement, je voudrais là faire référence à un livre, à mon avis, injustement décrié, le livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Il décriait pourquoi ? Parce qu'on a cru que ce livre était une sorte d'appel à une nouvelle guerre sainte, alors que, précisément, Huntington plaidait pour une règle d'abstention pour que la paix persiste dans un monde multipolaire et multicivilisationnel. Mais justement, par rapport à cette notion de progrès qui s'effrite sous nos yeux, l'idée de progrès confondait modernisation et occidentalisation. Or, dit Huntington, ce qui se produit sous nos yeux, c'est une modernisation sans occidentalisation. Et une modernisation qui peut très bien aller de pair, dans certaines parties du monde, avec le retour du religieux, comme si, effectivement, le dogme religieux s'accommodait sans trop de problèmes avec la méthode telle que la préconise et l'applique la technoscience. Alors, voilà, n'est-ce pas une manière d'avancer un peu que, justement, de reconnaître la validité de cette idée d'une modernisation sans occidentalisation, à laquelle les Occidentaux particulièrement n'était absolument pas préparé. Marcel Gauchet.
Le diagnostic d'Huntington mérite en effet une discussion très nuancée. Au lieu des rejets massifs et peu argumentés dont elle a fait l'objet pour des raisons morales, puisque c'est un livre qui apparaissait sous un signe belliciste, disons. Toute la question, c'est que mettons-nous sous ces notions de modernisation et d'occidentalisation ? Je crois que le diagnostic d'Huntington souffre de ce point de vue d'une sorte de naïveté par rapport à ce qu'on vient d'appeler occidentalisation et par rapport à ce qu'on peut regarder comme retour du religieux. Retour du religieux, peut-être, mais quel religieux, sous quel signe, sous quelle forme ? Là est le point qu'il faut traiter. Modernisation, cela veut dire ralliement aux principes fondamentaux de fonctionnement des sociétés occidentales dans leur aspect principalement économique. La technoscience, mais pas seulement, le mode de pensée qui va avec le calcul économique, mode de pensée qui inclut le point de vue de l'intérêt individuel, lequel a un impact civilisationnel gigantesque sur des sociétés qui, traditionnellement, pour aller vite, privilégiaient l'intérêt du groupe. Donc, en fait, au travers de cette modernisation, c'est bel et bien à une occidentalisation que nous assistons, mais à une occidentalisation complexe qui intervient dans des contextes civilisationnels très différents. Bel et bien, il y a ralliement à l'ensemble des principes de fonctionnement qui prévalent dans le monde occidental d'une manière axé sur l'efficacité économique, mais qui entraîne le reste avec elle. Cela ne veut évidemment pas dire que le Japon soit appelé à ressembler aux États-Unis ou que l'Europe occidentale soit le modèle vers lequel se dirige la Chine du point de vue des valeurs spontanées, de la culture qui règne entre les individus. C'est là où la naïveté du concept d'occidentalisation éclate. Bien évidemment que l'appropriation de ces outils de la modernisation, de la modernité occidentale, ne signifie pas le ralliement inconditionnel et l'homogénéité du monde. Au contraire, on voit bien comment cette appropriation forcée, d'une certaine manière, des outils intellectuels et pratiques de la modernité occidentale provoque des résurgences identitaires. Et c'est là où la notion de retour du religieux révèle sa grande faiblesse. De quel religieux s'agit-il ? Avant tout d'un religieux qu'on reconstruit autour de la recherche d'une identité historique qui permet précisément de faire face à cette modernisation forcée.
Je dirais les choses de façon plus directement et naïvement politique. Les siècles passés, les quatre siècles passés, ont vu simplement l'Europe ou l'Occident donner la loi au monde. Bon. Donnant la loi au monde, l'Europe et l'Occident ont pour une part, mais pour une part très variable, refait le monde à leur image, pour une part très variable et parfois très modeste. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des parties du monde qui avaient été soumises à la loi de l'Occident retrouvent leur force en se saisissant de certains des moyens de la civilisation occidentale. Vous avez parlé de l'expansion de l'islamisme radical, mais on pourrait parler de la Chine, qui n'a jamais été une civilisation particulièrement religieuse, et où l'on ne discerne pas un retour particulier du religieux, que ce soit la Russie, où l'on retrouve en effet une certaine reviviscence d'un religieux rattaché à la nation russe, qui peut être replacé dans une certaine tradition russe. Donc, de toutes les parties du monde, d'une certaine façon, qui paraissaient devoir se couler dans la perspective qu'imposait la force écrasante de l'Occident, eh bien, ces parties du monde retrouvent leur indépendance par rapport à cette force de l'Occident et peuvent même envisager très sérieusement d'exercer désormais sur l'Occident un ascendant que l'Occident a jusqu'ici exercé sur eux. Donc je crois que il ne faut pas penser simplement en termes de processus réguliers, occidentalisation, désoccidentalisation. Il y a aussi des drames liés au changement du rapport des forces, et il est plaidable qu'aujourd'hui, un des gros problèmes auxquels nous faisons face, c'est que nous avons le sentiment, et à mon avis justifié, que nous avons perdu cet ascendant irrésistible sur le reste du monde, que le reste du monde a aujourd'hui le nombre, mais aussi la puissance et une certaine capacité de maîtriser, exercer les moyens de la civilisation moderne, éventuellement contre nous. Et je crois que cela change beaucoup nos perspectives sur le monde.
Vous voulez répondre directement, Marcel
Gauchet ? Entièrement d'accord avec cette appréciation. On peut la résumer dans une formule. Les Occidentaux doivent comprendre que l'occidentalisation culturelle du monde qu'ils ont opéré se traduit aujourd'hui logiquement et implacablement en désoccidentalisation politique. Un monde occidentalisé culturellement sera un monde que les Occidentaux ne domineront pas politiquement.
Oui, mais Marcel Gauchet, vous défendez depuis le désenchantement du monde jusqu'à l'article que vous publiez dans le dernier numéro du débat, les ressorts du fondamentalisme islamique, une certaine représentation, une certaine philosophie de l'histoire, avec le passage, en effet, de l'hétéronomie, c'est-à-dire des sociétés structurées par le religieux, à l'autonomie. Et vous dites que, d'une certaine manière, toutes les sociétés aujourd'hui vivent ce passage, même si ça peut être de forme paradoxale, parce que ce passage, c'est la sortie du religieux. Il peut y avoir en apparence un retour du religieux, mais le fondamentaliste est un passéiste résolu, dites-vous, qui ignore à quel point il est un moderne malgré lui. Or, Pierre Manant vous dit, non, ce sont des civilisations finalement extérieures à l'Occident qui utilisent les moyens de la civilisation industrielle, ceux de la technoscience, la méthode, pour parler comme Husserl, ils font valoir leur propre être, leur propre réalité. C'est donc quand même, me semble-t-il, à vous écouter l'un et l'autre, deux conceptions de l'histoire qui s'affrontent, Marcel Gauchet.
Sûrement. Nous sommes là devant le grand débat du monde contemporain. Très légitimement, des interprétations divergentes se confrontent. Mais comment, pour défendre ma propre position, comment concevoir qu'on puisse utiliser les moyens de l'Occident, dont il faut voir l'ampleur des conceptions qu'il mobilise dans le statut des personnes, dans leur mode de pensée, dans la construction d'une collectivité. Comment imaginer qu'on puisse utiliser ces moyens en préservant son être propre? Je crois que c'est en effet l'un des projets que poursuivent les anti-occidentaux qu'on peut rassembler en particulier sous l'étiquette de fondamentalistes religieux. C'est leur dessein. Mais ce dessein est-il possible, est-il praticable? Je le crois impossible. Je crois que, irrésistiblement, à partir du moment où on a mis le doigt dans les moyens qui sont ceux de la rationalité occidentale, pour faire court, le reste suit. Ce qui ne veut pas dire que ce reste ne se colorera pas d'un héritage civilisationnel militaire. Cela va de soi. Et nous n'allons pas du tout vers un monde homogène. Nous allons vers un monde identitairement très bigarré, et d'ailleurs très vindicativement bigarré, mais néanmoins construit autour de ce socle commun que l'Occident a apporté désormais à une civilisation planétaire.
Bien maintenant.
Bon, nous n'allons peut-être pas entrer dans les questions ultimes sur le religieux. Nous avons l'éternité pour cela. Nous sommes au présent. J'ai un désaccord avec Marcel sur ce qu'il vient de dire, que s'emparer des moyens de la civilisation occidentale entraîne en quelque sorte tout le reste, y compris le statut des personnes. Parce que je dirais que, il me semble en tout cas, que ça fait déjà longtemps que, par exemple, la civilisation arabo-musulmane est exposée à la modernisation depuis l'expédition d'Égypte. Elle a fait de grands efforts pour, en quelque sorte, s'approprier, s'assimiler les formes politiques et les régimes politiques occidentaux. Après tout, il n'y a pas si longtemps, dans notre commune jeunesse, quelles étaient les références dans cette région du monde? C'était le nationalisme arabe, le socialisme arabe. Et il était légitime de penser que c'était ces mouvements qui allaient l'emporter d'une façon ou d'une autre. L'islam, à l'époque, étant tout à fait hors du champ. Ça faisait partie du paysage, mais ça ne semblait pas du tout pertinent pour le développement de ces pays. Alors, ce que l'expérience semble prouver, que pour des raisons que les spécialistes et les autres discuteront, et discutent en effet, ni le nationalisme arabe, ni le socialisme arabe, qui d'ailleurs se superposent pour une bonne part, ne sont parvenus, en quelque sorte, à donner forme à la vie de cet immense ensemble. Et que cet immense ensemble se trouve en quelque sorte, je ne dirais pas forcé, mais amené à chercher, dans ce qu'il a de commun depuis le plus longtemps, ce qui lui est propre, à savoir la loi divine et les mœurs qui vont avec cette loi divine. Et je crois que, Marcel, vous sous-estimez, je dirais, la consistance de ce dispositif. Que ce n'est pas parce que les Européens ont le sentiment que vraiment c'est pas une façon de vivre et que c'est pas possible de vivre comme ça, que ce n'est pas un dispositif social, moral, humain, que sais-je, qui a une remarquable capacité associative, donnant à cet ensemble humain, par ailleurs fragmenté, par ailleurs rencontrant les difficultés que nous savons, mais lui donnant des raisons de confiance en lui-même, lui donnant des moyens de force, et lui donnant une espérance de peser sur les destinées du monde qu'il faut prendre au sérieux.
Marcel Gauchet.
Le prendre au sérieux, assurément. Et je ne sous-estime pas du tout, j'espère, cette consistance que vous soulignez à très juste titre. Cependant, nous sommes bien obligés d'observer que la modernité occidentale apparaît comme une proposition qu'on ne peut pas refuser, même si elle suscite d'immenses réserves. Et que donc, en fait, nous sommes dans une situation de contradiction aiguë qui me semble expliquer largement les paroxysmes dont cette région du monde est l'objet, entre un désir frénétique d'appropriation des outils de cette modernité occidentale, à commencer par ceux qui très humblement touchent le quotidien des personnes, qu'il s'agisse de l'alimentation, du confort domestique, de la santé, tous ces moyens qui sont la promesse très forte de la modernité, on le comprend très bien, de par le monde. Sans parler de la richesse et des libertés personnelles. Et d'autre part, en effet, un héritage dont il faut savoir, qu'il faut sûrement cesser de considérer avec ce mépris naïf des occidentaux militants du XIXe siècle, à l'âge colonial, qui méprisaient cette arriération, ces préjugés ridicules et ce statut d'infra-civilisation où ils estimaient être plongés ces sociétés. Bien entendu qu'il faut se délivrer totalement de cette candeur. Mais il me semble que nous sommes non pas devant une civilisation qui essaye de retrouver sa consistance originelle parce que c'est son appui le plus sûr, mais encore une fois dans des sociétés très profondément divisées entre deux ordres d'aspiration. Et dans l'autre sens, ce que l'expérience du socialisme et du nationalisme arabe ont montré, mais on peut étendre beaucoup le spectre de cette proposition. Ce que cela a montré, c'est la naïveté que les occidentaux et les modernistes de tout poil ont montré vis-à-vis de la construction des structures qui portent la modernité. Nous savons bien, puisqu'il était question de nationalisme, qu'il faut des siècles pour faire une nation. Nous savons bien que le socialisme s'est révélé un projet autrement difficile à pratiquer, quelle que soit sa grandeur intellectuelle, que tout ce que nous pouvions juger de loin. Donc la lenteur des évolutions qui sont indispensables à la base est ce que nous, occidentaux, tendons toujours à soupçonner nos amis américains tout spécialement, qui visiblement pensent que la démocratie se décrète et que les constitutions parachutées par avion sont susceptibles de rallier l'enthousiasme des indigènes, quand bien même ils ne savent pas lire. C'est un miracle qui ne se produira jamais. Il faut donc accepter cette temporalité complexe du processus historique dans lequel nous sommes embarqués. Et nous, occidentaux, sommes coupables, criminellement coupables, d'oublier notre histoire et la complexité de notre propre histoire.
Oui,
c'est le moment de se faire historien.
Alors, c'est le moment de se faire historien. Vous vous faites historien et vous rappelez, Marcel Gauchet, que de la réforme aux Lumières, le chemin est loin d'avoir été direct. C'est vrai. Mais donc la réforme, ça a donné lieu à des guerres religieuses d'une intensité inouïe, dont est sortie d'ailleurs la laïcité occidentale sous toutes ses versions, pas seulement la version française. Mais précisément, qu'est-ce qu'ont fait les réformateurs au XVIe siècle, comme l'a dit Tocqueville? Eh bien, ils ont soumis quelques-uns des dogmes de l'ancienne foi à la raison individuelle. Évidemment, ils ont continué à soustraire tous les autres à la discussion, mais quelque chose s'amorçait là. On peut se demander si quelque chose s'amorce dans l'islam qui ressemble à la réforme, puisque vous reconnaissez vous-même que c'est le littéralisme aujourd'hui qui l'emporte et non la soumission des dogmes ou du Coran à la raison individuelle. Et puis, est-ce que vous n'avez pas tendance, Marcel Gauchet, à prendre la modernité occidentale comme un bloc? Parce qu'après tout, il y a bien eu une crise à un moment donné. Husserl a bien défini quand il a dit que c'était la tendance à prendre pour l'être vrai ce qui est méthode. C'est le développement de la raison instrumentale au détriment, c'est-à-dire la substitution des problèmes de méthode aux problèmes du sens, ce contre quoi d'ailleurs même Benoît XVI s'élevait quand il a fait appel à un grand logos. Mais si raison instrumentale il y a, eh bien une autre civilisation peut se servir de cet instrument et l'englober dans sa propre vision sans que précisément son être soit complètement transformé par cela, Marcel Gauchet.
Là est toute notre discussion, dont je n'ai pas la prétention d'avoir le dernier mot. J'y défends une interprétation dont je conçois que d'autres soient possibles. La raison instrumentale ne se dissocie jamais complètement de la raison tout court, du principe de rationalité qui est tout simplement la possibilité de remettre en question au nom de la rationalité ce qui vient d'être soutenu, proposé, institutionnalisé dans la forme d'une méthode. Une méthode, c'est quelque chose qui ne cesse de s'interroger soi-même. Donc, en ce sens-là, je ne crois pas, encore une fois, qu'il y ait instrumentalisation possible de la modernité jusqu'au bout. Bien sûr qu'il y a des instrumentalisations partielles dont l'usage des armes occidentales est exactement la forme élémentaire et la plus dangereuse pour nous tous. C'est l'évidence. Mais je crois que l'histoire occidentale est là pour nous montrer combien nous avons été naïfs nous-mêmes à toutes les étapes de ce parcours vis-à-vis de la complexité du processus qui était en train d'advenir. Et nous, notre devoir, en conséquence, est de tirer les leçons de cette histoire en étant un peu moins naïfs. Bien entendu que la modernité occidentale n'est pas un bloc. Elle ne se présente pas d'une manière homogène. Elle est articulée en plusieurs composantes qui peuvent être tout à fait rivales et qui ont déclenché à l'intérieur de nos sociétés de profonds conflits. Néanmoins, il y a articulation entre ces composantes. Ne nous précipitons pas dans l'autre sens, donc vers l'idée qu'on pourrait prendre l'une de ces composantes et laisser de côté le reste, en négligeant cette articulation. Et bien sûr que le fondamentalisme musulman actuel n'emprunte pas les voies qui ont été celles de la réforme occidentale, à bien des égards. Parce que le contexte historique est complètement différent, et il est même très paradoxal. Mais regardez ce que Olivier Roy a éclairé dans un livre récent très intéressant qui s'appelle « La Sainte Ignorance ». Le fondamentaliste est un personnage qui ignore en fait sa propre tradition dont il se réclame, ce qu'il montre sans peine. Mais ça veut dire qu'en réalité, ce fondamentaliste ignare est quelqu'un qui, d'une façon très paradoxale, entre dans l'univers du jugement individuel. Il a l'outrecuidance de placer ses faibles lumières au-devant et par-dessus l'autorité religieuse qui prévaut théoriquement dans sa communauté. C'est une manière de s'individualiser qui peut nous paraître antipathique et pas constructive, mais je crois que le processus est bel et bien engagé, même si c'est sur un mode qui nous déconcerte au premier abord.
Pierre Manon.
Deux remarques. J'aime beaucoup l'expression de Marcel, proposition qu'on ne peut pas refuser. C'est une proposition que vous dites l'Occident a fait au reste du monde, mais c'est d'abord une proposition que l'Occident s'est faite à lui-même. Et une proposition qu'on ne peut pas refuser, c'est une proposition qui ne peut pas être franchement honnête. Bon. Donc il y a une équivoque dans cette proposition que nous nous sommes fait. Et quelle est cette équivoque? Je crois que c'est simplement que nous nous sommes promis deux choses très différentes, le confort, la jouissance des droits et des plaisirs, et la puissance. Et nous avons avancé dans l'équivoque entre ces deux composantes de l'Occident. Et aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les autres qui essaient de faire leur choix entre les différentes composantes de cette proposition, c'est nous qui prétendons faire le choix, les Européens en particulier, de renoncer à la puissance pour avoir le reste, le confort, le plaisir et les droits. Et je crois que là, nous prétendons faire un choix qui est impossible en vérité, parce que la proposition occidentale est inséparable de cette affirmation de puissance sur les conditions du monde humain et donc d'une certaine façon sur l'ensemble de l'ordre mondial. Deuxième remarque, La réforme de l'islam, bon, je ne m'aventurerai pas sur ces questions, faute d'une science suffisante. Je ferai quand même une remarque. Le christianisme est une religion qui se rapporte nécessairement à son histoire. Parce que d'abord, il s'articule sur le judaïsme. Le christianisme est inconcevable sans son rapport à une histoire antérieure, indépendante. Et d'ailleurs, comme on sait, le rapport du christianisme au judaïsme n'est pas... est un nœud de complexité, nous dirons cela ainsi. Bon. Et à l'intérieur même du christianisme, comme il se conçoit comme le véhicule d'une grâce, en quelque sorte, l'Église est le véhicule de la grâce divine... l'idée même d'Église inclut une histoire, un développement, y compris un développement dogmatique. Et donc, l'ensemble chrétien s'interroge toujours sur l'authenticité de son rapport à la fondation. Et en l'occurrence, à l'Évangile. Or, toutes ces composantes inséparables de l'historicité, si l'on veut parler ainsi, chrétienne, ne se retrouvent pas dans l'islam qui... se donne, n'est-ce pas, comme révélation complète, éternelle, immédiate, d'un seul bloc, une révélation qui n'est pas faite à Mahomet. Enfin, elle est faite d'abord à Adam lui-même, puisque l'humanité naît musulmane dans la conception.
Oui.
Donc, ce que je veux dire simplement, je ne porte aucun jugement d'historien de la religion que je ne suis pas, ni théologien que je ne suis pas. Je veux dire simplement que ce mouvement qui nous semble si naturel, bah, qu'il fasse une réforme, nous l'avons bien faite, qui nous d'ailleurs. Bon, tous les athées disent qu'ils ont fait la réforme. Bon, c'est quand même étonnant. Mais bon, qu'il fasse la réforme. Mais est-ce que dans la constitution même du corpus de la croyance islamique, de la croyance musulmane, il y a place pour cette réforme.
Alors, ce qui veut dire que pour vous, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans cette confrontation entre l'Occident et certaines parties de l'islam, quelque chose de la vérité de l'islam se révèle. Ce n'est pas le télescopage de l'islam et de la modernité, sous la forme justement de ces interprétations individuelles un peu délirantes dont parle Marcel Gauchet après Olivier Roy.
Non, je suis sûr que sur ce point, Marcel Gauchet et Olivier Roy ont raison. Il y a certainement beaucoup d'interprétations tout à fait liées aux circonstances modernes et que certainement beaucoup d'islamistes flamboyants ont une très mince connaissance de leur religion. Mais si j'ose dire, je ne crois pas que ce fait, qui est en lui-même digne d'être considéré, a l'importance et la signification pour l'interprétation générale de notre situation que vous lui accordez. Voilà.
Marcel Gauchet.
Alors, deux réponses à vos deux observations, très vite sur la première. En effet, j'observe comme vous ce renoncement à la puissance européenne qui, dans l'ensemble occidental, se couple avec une affirmation de puissance déraisonnable du côté de nos amis américains. Et je crois que dans les deux cas, on rate la cible.
Accordé.
La cible étant de trouver un usage intelligent de la puissance qui ne soit pas l'ethnocentrisme du passé dans lequel... les Américains me semblent enferrés, ni ces purs et simples abandons dans lesquels les Européens sont en train de sombrer. Là, nous ratons le coche de l'histoire, dans les deux cas. Sur le second point, ce qu'il faut observer, c'est en effet, c'est d'ailleurs dans le texte que Alain voulait bien citer tout à l'heure, j'essaye de faire, en effet... pour l'islam, cette situation, pour des raisons qui lui sont les plus profondes, présente une difficulté extraordinaire. Et une difficulté extraordinaire qui est directement à la source des débordements, du terrorisme, de la folie meurtrière que nous voyons à l'occasion, à l'œuvre, et qui le distingue aujourd'hui dans toutes les aires religieuses du monde. Quand bien même le fondamentalisme est à l'œuvre un peu partout. Le fondamentalisme musulman a une intensité, une effervescence tout à fait spécifique qui tiennent profondément, en effet, aux racines primordiales du fait islamique. C'est indéniable. Et je crois qu'il faut l'explorer aussi rationnellement et avec autant de calme, sans se précipiter dans des clichés tout faits, pour comprendre la difficulté spécifique qui est faite à l'islam par la situation où il se trouve. Mais l'énorme difficulté d'un processus ne signifie pas son échec programmé ou son impossibilité de principe. Je crois qu'il y a là, en effet, une difficulté majeure, mais dont il me semble qu'en dépit du tout, nous allons dans la direction qui me paraît être une adaptation du monde arabo-musulman aux conditions de la modernité.
Alors, toute la question est de savoir, effectivement, si ce processus a bien lieu. Dans La raison des nations, Pierre Manant, vous faites une analyse, il me semble, extrêmement pertinente et féconde, des attentats du 11 septembre. Vous dites que ce qui s'est montré là, c'est que l'humanité présente est marquée par des séparations bien plus profondes et bien plus intraitables que nous ne le pensions. Les événements du 11 septembre ont révélé l'existence d'un autre mur, après l'effondrement du mur de Berlin, l'impénétrabilité réciproque des communautés humaines, en dépit de la prodigieuse et toujours croissante facilité des communications. Et en plus, ce sont les Twin Towers qui ont été visés, c'est-à-dire un grand symbole de la mondialisation, du commerce, etc. La communication ne produit pas la communauté avez-vous dit, et on pourrait s'interroger effectivement sur la nature de cette séparation. Parce que, vous dites, Marcel Gauchet, oui, il ne faut pas mésestimer les racines primitives la force de l'islam de toujours dans ce qui se passe aujourd'hui. Or, ce que l'islam dit, c'est que tous les hommes sont nés musulmans et que le message du Coran leur a été transmis dès la naissance et que ce sont les circonstances extérieures, principalement la falsification du Coran céleste par les juifs en lui substituant la Torah et par les chrétiens l'évangile, qui ont fait que les hommes ont besoin d'être redressés par le message authentique transmis par Mahomet, le sceau de la prophétie. Je cite ici Alain Besançon qui, un peu plus loin, écrit la fonction des grandes figures bibliques dans le Coran est de nier le fondement de la foi juive et chrétienne. Abraham est détaché d'Israël, il n'engendre pas le peuple juif. Marie est détachée de Sion, d'Abraham. Jésus témoigne contre la Trinité, etc., etc. Donc, est-ce que ce n'est pas cette querelle-là qui ressurgit aujourd'hui sous nos yeux d'autant plus ébahis que nous avons, laïcs que nous sommes, oublié notre propre origine et que nous sommes les premiers surpris quand on nous traite de croisés. Donc ma question, c'est quel est le sens de la séparation qui est aujourd'hui à l'œuvre dans notre monde, Pierre Manant?
Je crois en effet que nous devons apprendre à vivre tranquillement, sereinement, dans un monde qui n'est pas destiné à s'unifier. Nous avions espéré cela pendant très longtemps, sur la base de croyances ou de convictions qui avaient leur mérite, mais que, je crois, notre expérience nous oblige à réviser. Les communautés humaines, les communions humaines, ont une consistance qui résiste aux mouvements historiques qui paraissaient devoir tout emporter sur leur passage. Et là, c'est notre point de divergence, je crois, avec Marcel, c'est que, quels que soient les mouvements, les transformations qui, en effet, donnent du poids au jugement selon lequel l'Occident est sorti de la religion, en dépit de cela, je crois que le pouvoir organisateur, si je peux dire, des communions religieuses se confirme aujourd'hui plutôt qu'il n'est infirmé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les principes d'association qui paraissaient devoir succéder aux principes religieux de l'association, c'est-à-dire les classes, le socialisme, la société industrielle ou alors la nation au-delà des religions, embrassant tous ses fils, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, comme chantait Aragon, ces principes d'association, les principes d'association propres à l'Occident, la classe, la nation, sont en déshérence complète. Et les droits dont on veut faire notre nouvelle nation, en quelque sorte, les droits individuels, sont absolument réduits à eux-mêmes, sont absolument incapables de produire une association nouvelle qui ne serait que l'espace de garantie des droits. Donc, l'Occident se trouve, sortant de la religion, sort aussi, en même temps, et c'est ce qui rend sa sortie de la religion extrêmement équivoque, sort en même temps des associations politiques dans lesquelles il avait trouvé un abri en croyant sortir déjà de la religion il y a 2 siècles, 3 siècles parfois, puisque Machiavel aussi comptait déjà sortir de la religion. Donc, je crois que, simplement, un mot, regardant autour de nous, il me semble que nous percevons comme organisant notre présent, en tout cas, nous obligeant à le considérer comme un élément d'orientation important, peut-être décisif pour le présent, les vieilles associations religieuses, les vieilles communautés inséparablement politiques et religieuses, le monde musulman, le judaïsme, Israël et le peuple juif, donc, et puis, ce qu'il faut appeler quoi ? L'Europe, point de suspension, chrétienne, post-chrétienne, en tout cas une Europe qui ne pourra pas parvenir à la conscience de soi dans le monde tel qu'il se dessine si elle ne trouve pas un rapport effectif à sa marque chrétienne.
Marcel Gauchet.
Beaucoup de points d'accord, beaucoup de points de désaccord. Notre discussion est nuancée, Dieu merci. Le désaccord principal, et c'est par lui donc que je commencerai, va au constat de déshérence que vous formulez. Constat de déshérence des appartenances classiques. La nation au premier chef. La classe n'a jamais été un véritable principe identifiant social, sinon durant un temps très court, finalement, dans l'histoire européenne. En revanche, je crois que c'est là un point de vue européen du moment, conjoncturel, et qui est toute la crise européenne. Je crois au contraire que l'histoire, à l'échelle mondiale, le moment historique que nous vivons, confirme la vitalité de l'État-nation, des États-nations. Le monde dans lequel nous entrons, ce monde est unifié par une seule chose, en fait. C'est ce commun principe de l'État-nation, dans lequel les autres peuples qu'européens se reconnaissent, eux, pleinement.
Nous sommes d'accord, mais je parlais de l'Europe.
Mais pas la France.
Oui, oui. Je parlais de l'Europe. C'est le problème pour l'Europe.
J'entends bien. C'est pourquoi nous devons parler d'une crise européenne. C'est le profond de la crise européenne. L'incapacité de se définir politiquement, qui est sa difficulté, son mal qui la ronge. Parce que, par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que les droits individuels sont bien évidemment incapable de former un lien politique solide. En réalité, les droits individuels, comment ne pas le voir historiquement, sont le produit de l'État-nation. Et en aucun cas, quelque chose qui pourrait s'y substituer. Ils n'ont aucun sens en dehors de ce cadre politique dont ils règlent les opérations. Par conséquent, je crois que le grand problème qui nous est posé, c'est le problème européen. On ne dira pas, je pense, que vous me l'accorderez aisément, j'en suis sûr, que l'État-nation américain est en péril. Il va très bien. Il est même dans une forme extraordinaire et, à bien des égards, pour nous, préoccupante par les débordements que cette vitalité entraîne. Mais nous avons notre question européenne. Ce dont vous parlez, en parlant de la profondeur de ces associations politico-religieuses qui sont en effet qui vont rester très longtemps, en tout cas le cadre organisateur de la planète, on peut tout simplement y reconnaître la marque de l'histoire. Nous sommes les enfants de l'histoire à un degré que nous sous-estimons. Pas simplement du passé proche, mais en effet de vagues millénaires qui insiste dans l'identité des vivants. Et la crise européenne, c'est l'oubli de l'histoire européenne, oui, profondément.
Et un oubli s'atteste tous les jours. Le secrétaire général du Parti Socialiste, Cambadélis, a dit « Je ne connais qu'une seule identité, celle de la République. Il n'existe pas d'identité nationale. » Il me semble qu'à l'intérieur de l'Europe, ce refus de la nation par la nation même, et quand même assez typiquement français. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait en Espagne une journée de l'hispanité organisée avec les membres de l'Académie royale qui vont au palais du roi, justement, avec des cours spéciaux dans les écoles, etc. Mais je ferme cette parenthèse permanente. Simplement, vous dites l'Europe doit reprendre d'une manière ou d'une autre, je m'excuse de vous citer très approximativement, avec son origine chrétienne. Mais cela ne se décrète pas. C'est-à-dire, si nous sommes devenus post-religieux, nous n'allons pas revenir en arrière, il me semble. Il me semble que effectivement, toute l'humanité ne vit pas au même rythme aujourd'hui. C'est absolument clair. Et quant au judaïsme dont vous parliez, Israël, c'est vraiment une nation où s'unissent celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est une nation au sens où la France ne l'est peut-être plus tout à fait. Simplement, comment faire pour réhabiliter, sinon sous la forme d'un héritage culturel, cette identité chrétienne qui, selon vous, est peut-être le moyen de faire face aux défis du monde contemporain?
Vous l'avez noté, je n'ai pas parlé d'identité chrétienne.
Non, je sais.
C'est un terme que j'essaie d'éviter et en général, j'y réussis.
Et c'est, ben voilà, il y a moi. Excusez-moi.
Non, tout dépend. Je ne sais pas avec Marcel si nous sommes d'accord ou pas d'accord quand, sur l'histoire. Tout dépend de la façon dont on comprend la marque de l'histoire. La religion, ce qui me frappe, c'est à quel point il est difficile de définir l'état religieux d'un pays. Quel est le rapport de la France à sa religion, à ses religions d'ailleurs? C'est extrêmement difficile à dire. Les Américains ont l'art de porter leur religion sur leur manchette et se font passer pour infiniment plus religieux qu'ils ne sont si l'on fait une étude un peu plus précise de leur conviction, foi et conduite, parce que la religion fait partie de la présentation de soi des États-Unis d'Amérique. In God we trust. En France, c'est l'inverse. La religion est devenue, et depuis longtemps, est devenue si discrète. Le monde catholique en particulier a tellement intériorisé l'impératif laïque que la religion est une chose privée, ce qui est une thèse absurde. La religion est une chose sociale, ce n'est pas une chose privée. Ça ne peut pas être une chose simplement privée. Bon, enfin, les catholiques ont tellement intériorisé cette maxime que, en quelque sorte, ils sont devenus, déjà depuis fort longtemps, presque invisibles. Ils se conduisent comme si l'Église était clandestine. Presque. Il y a une présence religieuse dans notre pays comme dans les autres, dont le caractère, la couleur, la profondeur me paraît aujourd'hui indéterminé. C'est une exploration, si j'ose dire, que nous n'avons pas faite. Et d'abord, les catholiques, les chrétiens ou les post-chrétiens n'ont pas faite. Je crois que la connaissance sociale revendique en quelque sorte un caractère d'une précision extrême aujourd'hui en raison des statistiques et des enquêtes. Je crois que nous n'avons pas une connaissance qualitative suffisante du rapport de nos sociétés à la religion, y compris à la religion chrétienne. Et donc, second point, évidemment, il n'est pas question, et ce n'est pas mon genre de prédication, si j'ose dire, il n'est pas question de réclamer un retour à un état antérieur de la France catholique. Il s'agit de savoir quelle place le rapport, on dira, soit à cette histoire, soit à cette religion, a encore ou doit avoir pour notre pays. Et la seule chose que je soutiendrai, et là, je trace une ligne en quelque sorte de démarcation, la seule chose que je soutiendrai, c'est que si nos nations ne sont pas capables de renouer un rapport vivant à cette marque chrétienne, alors elles sont effectivement condamnées.
Marcel Gauchet. Pour finir, car l'émission va bientôt s'arrêter.
Tout notre problème d'aujourd'hui me paraît être que les évidences qui nous portent sont passées dans l'implicite. Notre histoire, ou d'ailleurs l'appartenance nationale. Car pour être très décrié, la nation n'en est pas moins le repère spontané de tous les acteurs, quand bien même ils ne le savent pas. Et rien de plus franchouillard que le protestataire antipatriotique. C'est une spécialité locale qui ne date pas d'hier. Et il en est autant de l'héritage religieux que de l'héritage politique. Je crois que c'est la léthargie type européenne dont probablement la France, pour des raisons qu'on peut scruter, est à la pointe avancée. Nous vivons dans un implicite en mettant au premier plan les choses qui ne sont pas essentielles, mais qui sont finalement secondaires et le produit de ce cadre à l'intérieur duquel nous avons le privilège de vivre sans nous interroger, à la différence de bien d'autres qui ont à le construire. Autrement dit, nous souffrons du symptôme des riches qui ne pensent pas qu'on puisse être pauvre. Et nous sommes en train de nous appauvrir de ce fait. Nous sommes en train de nous appauvrir peut-être économiquement, mais surtout moralement, intellectuellement, politiquement. En ne considérant pas tout simplement qu'une société doit faire vivre et l'histoire et le cadre politique à l'intérieur duquel elle s'inscrit. C'est notre problème et je crois que de ce point de vue, la situation de mondialisation peut nous être très propice car elle va nous obliger, que nous le voulions ou non, et je vois bien qu'il va falloir beaucoup de pression pour nous réveiller de notre torpeur, elle va nous obliger à nous définir par rapport à d'autres. C'est sa vertu. C'est la mondialisation, c'est l'obligation de se penser soi-même en fonction des autres. Et c'est somme toute une discipline qui va nous être salutaire, je l'espère.
Oui, sans doute. En tout cas, cette discussion a été un beau moment de résistance à cet appauvrissement dont vous parlez, Marcel Gauchet. Alors, je vous en remercie l'un et l'autre. Marcel Gauchet, vous publiez donc « Les ressorts du fondamentalisme islamique » dans le dernier numéro de la revue Le Débat. Et j'ai cité de Pierre Manant « La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe » chez Gallimard, ainsi que le livre d'Alain Besançon « Problèmes religieux contemporains » aux éditions de Fallois. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les intellectuels, le peuple et la République ». Mes invités seront Jacques-Alain Miller et Jacques Rancière. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Véronique Villa. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, les Arabes au XIXe siècle, une invention française, point d'interrogation, avec Henri Laurence.